7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 novembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un peu de répit dans le dossier brûlant de la pêche. Emmanuel Macron veut donner une chance aux discussions. Les sanctions ne sont pas appliquées pour l'instant. Satisfaction de Downing Street. Nous sommes à Londres, Anaïs, dès le début du journal, après les autres titres.
Arrêter la déforestation d'ici à 2030, l'engagement d'une centaine de pays aujourd'hui à la COP26. Nous irons dans l'une des régions les plus impactées par le réchauffement climatique, la Sibérie. Au procès des attentats du 13 novembre, la parole aux accusés à partir d'aujourd'hui. Et puis en fin de journal, l'incroyable exploit que s'apprête à relever le nageur Théo Curin, amputé des quatre membres. Il va traverser le lac Titicaca en Amérique du Sud.
Et nos invités ce matin, Léa, à 7h50 avec vous.
Écoutez, inconnus, ils étaient inconnus il y a 2 ans. Ils ont créé la surprise aux dernières européennes en faisant le même score que le Parti communiste. Le Parti animaliste a imposé la cause animale comme un thème de campagne. Sa présidente et candidate à la présidentielle, Hélène Trouy, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, le grand entretien ensemble avec le philosophe et écrivain Gaspard Koenig. Il publie dans quelques jours « Simplifions-nous la vie !» point d'exclamation. C'est aux éditions L'Observatoire. Ça parle de la suradministration comme passion française. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Des sourires, un bras de fer et finalement la diplomatie prend le dessus sur les menaces. Dossier de la pêche, pomme de discorde depuis des semaines entre la France et le Royaume-Uni. La tension est retombée hier. Alors que la France menaçait encore d'appliquer dès ce matin des mesures de rétorsion, Emmanuel Macron à Glasgow a décidé de donner du temps au temps, pas de sanctions, tout de suite, tant qu'on discute, dit en substance le président français. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant permanent à Londres. Déclaration saluée par les autorités anglaises.
Oui, dès hier soir, Downing Street a publié un communiqué satisfait. On peut y lire que le Royaume-Uni est prêt à poursuivre des discussions intensives sur la pêche, y compris en examinant toute nouvelle preuve pour soutenir les demandes de licence restantes. Un communiqué satisfait, je vous le disais, mais pas la fin de la partie, parce que dans cette simple phrase, on entend toujours le même discours qui revient à dire « Les pêcheurs français qui n'ont pas reçu d'autorisation n'ont pas fourni suffisamment de preuves » et c'est le cœur du conflit, la France pointant jusqu'ici le zèle britannique au moment des contrôles. Le porte-parole de Boris Johnson écrit ensuite « Nous nous félicitons que la France reconnaisse que des discussions approfondies sont nécessaires pour résoudre l'ensemble des difficultés de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Vous avez bien entendu l'ensemble des difficultés, alors que des discussions sont également en cours actuellement avec Bruxelles sur le délicat protocole nord-irlandais de sortie de l'Europe. Londres ne recule absolument pas. Le ministre du Brexit, David Frost, se rendra après-demain à Paris pour voir ce qui peut être négocié.
Merci Richard Place en direct de Londres. Du côté des pêcheurs français, la discussion pour l'instant est bien vue, explique Jean-Luc Hall, le directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
C'est plutôt un bon signe, effectivement, puisque on était plutôt parti dans une spirale infernale de perdant-perdant, puisque actuellement nos pêcheurs sont toujours dans les spectatives. C'est à peu près 250 licences qui restent à obtenir. Et malgré les efforts qui ont été faits, qui ont été consentis ces 10 derniers mois pour fournir des éléments de preuve suffisants, on n'y arrive pas. On a quelques licences qui ont été délivrées au compte-goutte et aujourd'hui, on est face à un mur. Et donc, on voyait finalement, à travers ces mesures de rétorsion, le moyen d'affirmer que nous aussi, nous avions une capacité de nuisance.
Jean-Luc Hall du Comité national des pêches. Et pour tout comprendre sur ce conflit des licences, rendez-vous sur franceinter.fr.
Il est 7h04, l'équivalent de 27 terrains de football de forêt disparaissent de la planète Anaïs, chaque minute.
Oui, image très saisissante, brandie par le Premier ministre britannique, hôte de la COP26, qui annonce un engagement pour enrayer la déforestation d'ici à 2030. Déclaration signée aujourd'hui par plus de 100 pays, dont le Brésil, le Congo, le Canada et la Russie. 19 milliards de dollars de financement, engagement sans précédent, dit Boris Johnson. Mais horizon 2030, trop lointain pour les ONG, c'est un feu vert à une décennie supplémentaire de déforestation. Les forêts sibériennes, elles, ont payé un lourd tribut parti en fumée à cause de gigantesques incendies. Dans cette région du monde, l'une des plus froides, le réchauffement y est deux à trois fois plus rapide que dans les régions tempérées. Le reportage en Yakoutie de Sylvain Tronchet.
En Yakoutie, le réchauffement
réchauffement climatique est déjà une évidence pour tous les habitants, comme Valérie Dichowski, il a 66 ans et il regrette les débuts d'hiver de sa jeunesse.
Avant, à cette époque, nous allions pêcher en faisant un trou dans la glace qui était très épaisse. Mais maintenant, la glace est trop fine pour qu'on puisse aller sur le lac. Ça devrait déjà être l'hiver et on a des températures positives.
La principale conséquence du réchauffement climatique ici, c'est le dégel du pergélisol, le permafrost en anglais. Cette couche de terre, théoriquement gelée toute l'année. Nikita Tananaïev est chercheur à l'Institut du permafrost de Yakoutsk.
On va perdre la couche du pergélisol avec laquelle on est en contact direct, avec tous nos bâtiments, nos routes, nos fleuves. Donc on change en fait le visage de nos écosystèmes.
Ces paysages qui changent, les habitants les observent depuis des années, comme Vladimir Tarasov, qui nous emmène au bord de la Taïga.
Voilà, ici, il y a 10-15 ans, il n'y avait qu'un seul lac. Et maintenant, comme vous le voyez, il y a de l'eau partout. Il y avait quelques familles qui venaient ici couper du foin pour les vaches et les chevaux. Et maintenant, il n'y a plus que de l'eau.
En 25 ans, la Yakoutie a perdu plus de 50% de ses surfaces agricoles devenues inutilisables. À Yakoutsk, Sylvain Tranchet, France Inter.
Un reportage à écouter en longueur ce soir dans Un jour dans le monde à 18h. Et puis en pleine COP, on apprend que contrairement aux promesses de ses dirigeants, la Chine a augmenté de plus d'un million de tonnes sa production quotidienne de charbon pour faire tourner les centrales électriques. En France, le procès des attentats du 13 novembre entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. On a entendu les victimes et leurs proches raconter l'horreur de cette nuit. Place maintenant aux 14 accusés présents à l'audience. La cour d'assises spéciale va leur demander de s'exprimer un à un sur leur vie et leur personnalité. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez le procès depuis le début. La plupart des accusés sont restés silencieux, même si certains ont commencé à se dévoiler un peu. Et celui qu'on a le plus entendu, c'est Salah Abdeslam.
Oui, le principal accusé qui est resté mutique pendant toute la durée de l'instruction et dont on se demandait à l'ouverture de ce procès s'il ferait de même à l'audience. La réponse est venue très vite, dès le premier jour, avec cette revendication. Je suis un combattant de l'État islamique. Je tiens à témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Puis au gré des audiences, Salah Abdeslam a continué à réclamer régulièrement la parole, tantôt pour dénoncer ses conditions de détention. On est traité comme des chiens, tantôt pour justifier les attentats, parce qu'en Syrie, les avions français ne font pas la distinction entre les hommes, les femmes et les enfants. Alors, on a voulu que la France subisse la même douleur que nous. Tantôt encore pour réagir au témoignage de la sœur d'une victime des terrasses. On a visé les mécréants et si votre sœur était musulmane, c'était un accident de notre part. Tantôt enfin pour demander à sortir du box et lancer au président « Moi aussi, je peux monter le ton ».
Salah Abdeslam, un seul membre des commandos encore en vie. Les 13 autres accusés, eux, sont restés beaucoup plus silencieux, Charlotte.
Et pour certains, c'est à peine si on a entendu le son de leur voix le premier jour lors des vérifications d'identité. Pour d'autres, ils ont profité d'un temps de parole octroyé par le président pour assurer la cour de leur collaboration à l'audience, condamner toutes ces atrocités pour Yassine Attar, qui se dit innocent. Même chose pour Abdelachoua, qui ajoute « J'ai trois merveilleux enfants qui attendent leur père à la maison ». Quelques-uns, enfin, ont un peu plus émergé à l'audience et pris spontanément la parole. Mohamed Amri, profondément agacé par une partie civile qui fait que me fixer et me parler de loin. Ou Farid Karkache, visiblement très ému par les auditions de victimes. Tous ces témoignages me font saigner le cœur. Je suis musulman, mais l'islam, ce n'est pas ça.
Charlotte Piret, merci. Autre événement judiciaire aujourd'hui, le témoin Nicolas Sarkozy, attendu au procès de ses anciens collaborateurs dans l'affaire des sondages de l'Élysée lorsqu'il était président, jamais poursuivi ni entendu, protégé par son immunité. La partie civile a demandé son témoignage, une première pour la justice française, début de l'audience à 13h30. À un mois du Congrès des Républicains, les candidats à la candidature pour la présidentielle ont jusqu'à 18h pour déposer leur parrainage. C'est dans les clous pour les principaux candidats. Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Valérie Pécresse. L'entrepreneur Denis Père va écrire aux instances des LR pour leur demander de réexaminer son cas, n'ayant lui pas le compte de signature.
Après le choc du rapport Sauvé 7h09, le temps de la réflexion, Anaïs, et des décisions.
Les 120 évêques de France se retrouvent ensemble pour la première fois depuis la publication de ce rapport sur la pédocriminalité dans l'Église. Ouverture à Lourdes de leur assemblée plénière. 7 jours de travaux, la moitié consacrée à la lutte contre les violences et les agressions sexuelles sur mineurs. Plus de 200 000 victimes depuis 70 ans. Des annonces sont attendues lundi. Ils se sentent les oubliés du Ségur de la Santé. Les personnels de l'établissement français du sang sont en grève pour une semaine. FO, CFDT, CFE-CGT dénoncent leurs conditions de travail. Certaines collectes ne sont plus assurées faute de bras. Écoutez Carole Foratier, déléguée CFDT.
On n'arrive pas à recruter des professionnels de santé tels que des infirmières, des médecins et des techniciens de laboratoire, puisqu'ils sont mieux payés ailleurs et que, comme nous, on n'arrive plus à recruter, il y a les personnels qui restent remplace les absences inopinées ou l'absence prévue, les conditions de travail se dégradent, donc c'est un espèce de cercle vicieux, parce que plus une non-revalorisation de la rémunération, bah les personnels s'en vont et se lassent, quoi. Là, en ce moment, on a 300 postes vacants, 300 postes qui ne sont pas pourvus en France. Nous, on réclame une enveloppe pour pouvoir renégocier la classification. On réclame l'arrêt des suppressions des effectifs et tout ça avec le respect de la législation sur notamment le temps de travail, mais aussi le code du travail.
Carole Foratier, déléguée centrale CFDT à l'établissement français du sang avec Célia Quiré. C'est un géant dans sa capacité à relever des défis immenses. Le nageur Théo Curin s'envole aujourd'hui pour l'Amérique latine pour traverser avec deux autres athlètes le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou. Amputé des quatre membres après une méningite foudroyante lorsqu'il était enfant, il a dû renoncer aux JO paralympiques cet été. Et voilà donc un exploit de substitution, tout aussi exigeant sur le plan physique que mental. Jérôme Val a assisté à ses derniers entraînements en altitude dans les Pyrénées.
On part pour une petite demi-heure. Vous me faites 200 au choix.
Ultime longueur à avaler dans la piscine du centre d'entraînement en altitude de Font-Romeu. Après des mois d'efforts.
Je me sens fracassé.
Depuis qu'il a imaginé ce projet lors du premier confinement, Théo Curin a enchaîné les séances dans les bassins, dans les lacs et dans les chambres d'hypoxie pour simuler les hautes altitudes. Mathieu Wittwoutz, un éco-aventurier, accompagne le jeune nageur dans ce défi.
La difficulté dans un défi pareil, c'est un radeau qui fait 500 kg qu'on doit tracter à 3800 mètres d'altitude. Donc ça veut dire 40% moins d'oxygène et une eau à 10 degrés.
Mais aujourd'hui, plus rien ne semble arrêter Théo Curin. Sportif de haut niveau, mannequin pour une marque de cosmétiques et depuis peu acteur, de quoi bluffer Stéphane Leca, l'entraîneur du trio.
Théo, ben, c'est une machine mentale, c'est une machine musculaire. Franchement, Théo, je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter, quoi.
S'il assure aujourd'hui ne pas renoncer à la compétition, Théo Curin fourmille d'idées pour faire passer des messages d'espoir.
En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis tombé malade et que je suis sorti de l'hospitalisation et de la rééducation, j'ai l'impression que je me suis fait une promesse à moi tout seul en me disant « Ok, t'as failli y passer, maintenant tu vas te refuser rien ».
La traversée devrait durer 10 jours avec au programme plus de 10 km de nage quotidienne.
Et avant de partir, Théo Curin sera l'invité du journal de 13h de France Inter avec Bruno Duvic. C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Lui regarde encore le lac Titicaca depuis la station spatiale internationale. Thomas Pesquet et ses compagnons qui doivent rentrer sur Terre. Mais le départ de leur remplacement est encore une fois reporté après le mauvais temps. Cette fois, c'est un pépin de santé chez l'un des membres de l'équipage qui cloue au sol les quatre nouveaux astronautes. Le lancement de la fusée prévu demain est donc reporté à samedi soir.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le Zoom aujourd'hui au Burkina Faso.